22h30, la belle pop est sur France Musique et elle prend ce soir les traits familiers de l'un des rares artistes français à demeurer pleinement de son temps au fil des décennies. Rester alerte tout en embrassant les années au fil de textes à l'épaisseur romanesque émouvante, ce n'est pas la moindre des qualités d'Étienne Dao que je reçois ce soir au croisement d'une actualité triple, un nouvel album bien sûr, les chansons de l'innocence retrouvées, mais aussi la réédition d'un classique qui porte bien ses 30 ans, La Notée, La Notée, et enfin cette tournée très attendue dont le coup d'envoi sera donné de fort belle manière au début du mois de juillet à Paris, avec un joli coup d'épaule à cette génération tombée pour la France. Passé, présent, avenir, la belle pop, saison 2, épisode 36, nous sommes en direct jusqu'à minuit. Baiser du destin, c'est le titre qui ouvre le 10e album d'Étienne Dao, les chansons de l'innocence retrouvée. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Vincent.
Alors cet album, il est paru à l'automne dernier, après avoir été repoussé suite à des problèmes de santé. J'avais deux questions. La première, comment allez-vous ?
Ça va bien.
Bon, je suis ravi de l'entendre. Et la deuxième, peut-être un peu plus étrange, comment il va ce disque, 6 mois après sa sortie ? Comment vous le voyez grandir ?
Je l'avais pas écouté depuis longtemps et ça m'a fait une drôle d'impression de le réécouter. Je l'ai pas réécouté depuis sa sortie et en fait de l'écouter comme ça, ça évoque plein de souvenirs. Je revois le batteur, le bassiste, je revois les cordes à Béraud. Enfin, c'est comme un film. Et en tout cas, mon rapport à ce disque est bon. Ça grandit.
Qu'est-ce qui domine à la sortie d'un disque ? C'est quoi ? C'est l'angoisse des réactions des gens, l'impatience, l'envie d'en découdre ?
Dans ce cas précis, comme justement tu évoquais tout à l'heure qu'il y a eu un petit raté parce que j'étais à l'hôpital et que donc on est obligé de reporter la sortie, il y avait une impatience que ça sorte. J'en avais marre qu'on le retienne comme ça. Et voilà, c'était un disque dont j'attendais vraiment la sortie. C'était important pour moi qu'il arrive et je suis content de pouvoir être là pour pouvoir en profiter.
Alors, j'ai envie de citer quelques mots qu'on a entendus dans cette chanson. Quand l'infortune sourit en coin et que l'on passe à côté du baiser du destin, avant que dans nos mains ne soient tracées les lignes comme les nervures d'une feuille, où la fortune des héros vient se poser. C'est une sacrée façon d'ouvrir son 10e album en près de 30 ans de carrière, cette idée de destin.
J'étais très taraudé par l'idée du destin, enfin, qui est une chose qui nous traverse tous, enfin, qui nous concerne tous. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que c'est écrit ? Est-ce qu'on l'écrit soi-même ? Enfin, j'ai pas la réponse. Hein. En tout cas, j'ai essayé de faire une chanson qui tente de poser une question, en tout cas. Et voilà, il y a autour de moi, autour de nous, à chaque fois, des gens qui ont plein de belles choses dans les mains dont ils ne font rien, et des gens qui partent avec rien, qui ont des qui traversent leur existence d'une manière fabuleuse, quoi.
C'est quoi, c'est l'idée de savoir saisir sa chance ?
C'est de savoir la détecter, de savoir caresser sa chance, vraiment. Je pense qu'on peut aussi, on peut la fabriquer. On peut avoir l'instinct de suivre des choses qui vous feront du bien, des rencontres qui vont vous amener plus loin. Ça, c'est l'instinct qu'on développe. Enfin, je trouve qu'on l'a pas, on le développe pas assez, en fait. On est trop cartésien. Il y a plein de signes à suivre dans la vie. Et il suffit de savoir regarder à deux fois.
Je parlais tout à l'heure d'épaisseur romanesque. Et c'est assez frappant, je trouve, sur ce disque, notamment sur une chanson qui s'appelle L'homme qui marche, qui est très, très cinématographique.
Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, elle est construite comme un petit film. C'est la première chanson que j'ai écrite, en fait, pour ce disque. Et donc, tout d'un coup, ça mettait un espèce de climat, comme ça, romanesque, effectivement, parce que vraiment, il y a des chansons comme ça qu'on suit. Enfin, on ne peut que les suivre, en fait. On ne les fabrique pas. Elles existent par elles-mêmes. On a l'impression d'être traversé, justement, par elles et de n'être juste qu'un instrument dont elle se sert pour exister, pour se matérialiser.
Est-ce que ça veut dire du coup qu'il y a un éloignement par rapport aux matériaux biographiques, peut-être premiers ? C'est quoi ? C'est un changement ?
Oui. Je pense qu'avec le dernier album studio, qui s'appelle L'Invitation, je crois que j'ai fait le tour de tout ça. Et tant que j'avais pas fait le tour de tout ça, et de se libérer de tout ce qui sont des espèces de choses personnelles qu'on n'a pas réglées, on devient en même temps une voix pour les autres, parce que ce sont des choses qui sont assez universelles. Mais je pense avoir fait le tour de ça, et je n'ai pas écrit donc pendant un bout de temps. Dieu merci, j'avais ce projet avec Jeanne Moreau, Le Condamné à mort, qui était vraiment une manière de traverser ce moment où je me sentais tellement bien que j'avais plus de choses à écrire me concernant, en tout cas. Et petit à petit, quand on est bien, on ouvre les yeux, on regarde plus les autres, et cet album, le dernier en tout cas, parle davantage de l'état du monde, des gens qui traversent leur existence avec difficulté, des gens qui ont du mal avec leur vie. Voilà. Ça parle beaucoup, beaucoup de ça, en fait.
Et pour vous, c'est un changement de focal important ?
Bien sûr. Oui. Et c'était beaucoup plus difficile, en même temps beaucoup plus agréable, de se sortir de soi. C'est vraiment... Enfin, je ne l'ai pas vu, je ne me suis pas dit, tiens, ben, je vais écrire différemment. Quand on écrit, on suit vraiment quelque chose qui érupte, en fait, de vous, qui sort, quoi, qu'on ne maîtrise pas. Écrire, dans l'écriture, il y a comme ça aussi un côté qui est complètement de l'ordre de l'hypnose, par exemple. Je ne me souviens pas, je ne me vois pas en train d'écrire ces chansons. Alors que pourtant, j'en ai chié, j'ai passé du temps et ça m'a coûté. Mais je ne m'en vois pas en train d'écrire. C'est quelque chose que j'ai complètement effacé de mon cerveau.
Ça veut dire que ça sort d'une seule traite ou c'est beaucoup retravaillé après ? Comment ça fonctionne très concrètement l'écriture d'une chanson ?
Concrètement, pour la première fois, j'avais une méthode, enfin, à savoir que je me levais très tôt le matin. Je ne regardais pas du tout ni les emails, ni mon téléphone, etc. J'avais envie d'être complètement dans le moment où on, d'après la vie onirique, où on est encore assez frais. Et donc j'écrivais jusqu'à 11h tous les jours, mais j'écrivais des cahiers. Enfin, pour arriver à une chanson qui finalement est très courte, qui semble extrêmement simple, il y a beaucoup de choses écrites. Après, il faut élaguer, quoi. C'est ça la partie la plus compliquée, parce que c'est une frustration de ne pas pouvoir tout mettre, de ne pas mettre toutes les idées qu'on a envie de mettre dans une chanson. Mais il faut arriver à ne cerner qu'une seule idée.
Ça veut dire du coup que sur ce processus, il y a la matière à d'autres chansons ou c'est des choses qui vont être complètement mises de côté après ?
En général, j'aime pas me resservir de choses qui ont été écrites. Je les oublie de toute façon. Je jette les cahiers après, je veux rien garder.
tu mentionnais le condamné à mort, le projet avec Jeanne Moreau, mm-hmm. autour des textes de Jean Genet. Quel était l'impact sur cet album ?
Ah, je pense qu'il a ouvert des portes, véritablement. Vraiment, cette expérience avec Jeanne a été extraordinaire à plus d'un titre. C'était un moment où j'étais en plus entre deux maisons de disques, j'étais en totale liberté en fait. Parce que c'est un disque que j'ai financé, que j'ai réalisé artistiquement aussi. Donc j'étais responsable un peu de tout. Et c'était un moment très particulier, quoi, parce que je viens d'un monde qu'on dit de la pop, enfin qui est quelque chose d'assez flou, en fait, qu'on n'arrive pas à définir. Les contours de ça, c'est quand même assez flou.
C'est pour ça qu'on est là.
On se sert de tout, en fait. La pop, c'est beaucoup de choses très différentes qui, à travers le fil de la sensibilité, devient quelque chose de différent encore. Et je suis rentré dans un monde que je ne connaissais pas, qui est un monde qui est partiellement le monde du théâtre. J'ai joué à Avignon, j'ai joué dans des endroits comme ça. Quand on joue dans la cour des papes, devant un public qui peut être extrêmement hostile et le manifester assez bruyamment s'il n'aime pas, pour quelqu'un comme moi qui vient d'ailleurs, et que c'est un succès, c'est un cadeau excessivement gratifiant. Et puis d'être aux côtés de Jeanne, hein, de partager comme ça quelque chose avec Jeanne d'aussi fort, un texte qui est un manifeste, qui est comme un acte politique, c'est fantastique, quoi. Et forcément, ça laisse vraiment des traces. Et il y a eu des traces, forcément, dans le dernier album.
Les traces, c'est un pas vers un peu de fiction, vers l'incarnation de... Le fait d'incarner les textes différemment.
Oui, aussi. Je pense que la scène sera aussi différente. Ce que je trouvais le plus difficile, en fait, quand j'étais sur scène, c'était que j'arrivais sur scène et pendant 20 minutes, je ne faisais rien. J'étais dans la lumière et j'étais immobile. Et pendant ces 20 minutes, il se passe des milliards de choses dans la tête qui vont de... Je me souviens plus du tout du texte, parce que j'avais pas de prompteur, j'avais rien pour me raccrocher, quoi. C'est un texte quand même assez épais. Qu'est-ce qui va sortir? C'est quoi le premier son qui va sortir? Enfin, donc j'étais vraiment dans un espèce d'état de panique d'avant que la première note sorte. Et ça, c'est le plus dur, en fait. Je trouve que ça a été le plus difficile. Mais ça m'a beaucoup appris, en fait. Ça m'a beaucoup appris de ne rien faire, en fait, d'être dans la lumière, sur scène, et d'être immobile, et de ne pas chanter.
Que de temps passé en surface, que de temps à ne pas s'encombrer, du temps et des étoiles tombées. Que le temps passé en surface, je me voulais léger, du plaisir sans se retourner. Ce plaisir ne m'allégeait pas, la beauté n'avait pas de bras. Je rêvais d'une vie de plumes, ignorait l'est des noms humains. Je balayais mes propres traces. Que de temps perdu en surface. Que de temps passé en surface. Que de temps à ne pas succomber. Aux spleen et aux étoiles implombées. Que de temps passé en surface. L'éphémère était mon credo. Et hier, à la mauvaise place, je n'aimais pas trop mon cerveau. Mon corps envahissait l'espace. Puis j'ai vu bouger la surface. Tout le temps venant à déborder. Je pensais n'y pas y penser. Oui, mais nos pensées nous dépassent. Et j'ai glissé sous la surface. Délesté de la légèreté. J'ai compté les étoiles tombées. Et claqué le temps perdu en surface. Que de temps passé en surface. Que de temps à ne pas s'encombrer. Du temps et des étoiles tombées. Que de temps passé en surface.
Vous écoutez La Belle Pop sur France Musique et je suis en compagnie d'Étienne Dao. À l'instant, c'était En Surface, la chanson écrite par Dominica pour cet album. Et dans une version alors, qui est sur le bonus, l'édition deluxe de l'album, qui est pour le coup une version en duo avec des arrangements très différents du single qui vient de sortir. Un mot sur cette collaboration ?
Non, mais c'est un cadeau énorme que Dominique m'a fait. Je l'ai rencontré au tribute pour Jacquenot. Et il est arrivé pour ses répétitions, moi je partais, puis en fait, souvent on a la timidité, la réserve de ne pas aller dire aux gens à quel point on les apprécie. Et lui, c'est vraiment quelqu'un qui me plaît beaucoup, il a vraiment une espèce de rectitude comme ça dans son parcours. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et je suis revenu sur mes pas pour le lui dire. Et on s'est revus, il m'a envoyé plusieurs chansons, et je savais pas comment rentrer dedans en fait, parce que c'est tellement lui... que je trouvais compliqué d'incarner en fait. Et donc finalement avec Jean-Louis Pierrot qui est mon partenaire dans ce disque avec qui j'ai écrit et réalisé le disque, je lui ai dit écoute, je sais pas comment faire pour entendre cette chanson, je vais te la chanter puis tu vas me dire ce que t'en penses. Et en fait j'ai pris le micro, je l'ai chanté, c'est la voix qu'on a gardée sur le disque, c'est la première prise de voix. Et la version qu'on vient d'écouter avec Dominique, c'était un moment qui était assez fort parce qu'en fait, on était tous les deux sur le même micro. On D'accord. a chanté ensemble, tous les deux sur le même micro avec ce quatuor. Donc il y avait quelque chose une tension du live en fait.
Alors il y a énormément d'invités sur cet album, de nature très très, enfin d'origine, d'horizon plutôt très très différents. Oui. On peut en citer quelques-uns. Il y a François Marie de François and the Atlas Mountains, il y a Nile Rodgers, Debbie Harry, Au revoir Simone, c'est pour la partie anglo-saxonne. Est-ce que d'avoir autant de gens sur un album, ça implique d'avoir en amont une vision extrêmement forte et précise de ce qu'on veut faire ?
Alors pas du tout. Pas du tout, parce qu'à la base, il n'y avait pas du tout d'invités. Ça s'est fait comme ça. La plupart des gens, je les ai rencontrés pendant la période où j'enregistrais. François, Marie, par exemple, je l'ai rencontré à Londres. J'étais allé voir Coming Soon, qui faisait leur première partie. J'ai rencontré François, on s'est revus. Puis ça s'est fait comme ça, vraiment. Pour Jenny Jane de Savages, c'est pareil. Johnny Hostile, c'est pareil. Au revoir Simone aussi. On se connaît depuis plus longtemps, mais c'était un moment opportun pour faire quelque chose ensemble. Debbie Harry, Nile Rodgers, c'était une vieille histoire qui s'est matérialisée là. Normalement, ça aurait dû arriver en 91 à New York, parce que je les connais depuis cette époque-là. Et puis, il y a Yann Wagner aussi,
oui.
qui m'a demandé de chanter sur son disque. Voilà. Enfin, tous les gens qui sont dans ce disque sont des Dominique aussi, sont des gens qui ont vraiment leur rôle. Enfin, c'est pas anodin qu'ils soient là. C'est vraiment, c'est pas pour faire joli sur le sticker, c'est que vraiment, ils sont inscrits dans cette histoire.
Ça veut dire qu'ils apportent à la fois un peu de leur identité et en même temps quelque chose qui enrichit celle de l'album.
Oui, tout à fait. C'est vraiment un album de... C'est un lieu où on se rencontre, en fait. Voilà.
Alors, la collaboration avec Nile Rodgers, elle s'est pas faite à New York au début des années 90. Mm-hmm. Là, il se trouve que cet album, il fait partie des albums d'Étienne Daho qui sont enregistrés à l'étranger. Oui. Et c'est important, je pense, le fait que ce soit enregistré à Londres. C'est-à-dire que c'est une ville qui était très familière, en même temps qu'une ville étrangère.
C'est étrange. J'ai l'impression que je suis vraiment chez moi parce que je suis dingue de cette ville. Depuis que j'ai 14 ans, j'y vais très, très régulièrement. Donc j'ai la sensation d'être à l'étranger, mais en même temps c'est vraiment, je me sens chez moi, quoi. Puis c'est vraiment à côté, j'ai l'impression d'aller à Rennes, vraiment.
et enregistrer là, ça apporte une couleur particulière, une énergie particulière?
Oui, vraiment. Mais de toute façon, l'étranger en général, chaque fois que j'enregistre à l'étranger, c'est un moment que je choisis pour ne faire que ça, en fait. C'est un isolement, c'est un truc monacal ailleurs, pour n'être que dans le disque. Chaque fois que j'enregistre à Paris, je trouvais que j'étais vraiment tout le temps tiraillé dans des choses du quotidien qui font sortir de sa concentration. Et ce genre de projet, comme dernier album, c'est vraiment c'est un travail quotidien, c'est un travail colossal, quoi. C'est vraiment, il faut vraiment être dedans, quoi.
Je voudrais qu'on dise un mot de la pochette.
Ah oui.
Du disque qui est signé
Richard Dumas.
Richard Dumas, voilà, photographe qu'on a reçu dans l'émission il y a un an et demi, qui est un photographe fabuleux, qui est un collaborateur de Magic par ailleurs, et avec qui tu as une histoire très ancienne.
Oui, j'ai rencontré quand on avait 19 ans. Et en fait, il m'a accompagné sur mes premières maquettes, qu'il m'a ramené, enfin, qu'il a retrouvé il y a très peu de temps, je crois, il y a 5-6 ans. Et il me les a apportées, parce qu'on a ressorti une édition augmentée de mon premier album. Et donc, on a mis toutes ces maquettes qui sont guitare et voix avec lui, où on s'arrête, on rigole, on se trompe, je recommence. Enfin, c'est vraiment les prémices de toute mon histoire, quoi. Et c'était très étrange de réécouter ces chansons-là, enfin surtout ces maquettes, parce que j'avais vraiment l'impression de re-rentrer dans ma chambre d'étudiant, mais vraiment de respirer le même parfum. Et on s'est retrouvés pour cette pochette, pour faire les images de cette pochette. Et on est parti au Baléares, dans un hôtel, et on a rencontré cette fille complètement par hasard. Et il lui a demandé si elle voulait poser avec moi, et ça a duré 3 secondes en fait. Elle a disparu ensuite. On l'a rencontrée, elle était nue, hein. Enfin torse nu.
D'accord. on peut décrire, hein, pour qui ne l'aurait pas vue. Vous postez effectivement avec cette jeune femme dans l'encadrement d'une porte. Mm-hmm. Elle est très étrange, je trouve, cette pochette. Elle est très belle, mais elle est très étrange. On a envie d'y lire plein de signes, oui. De décrypter ce qu'il y a sur le t-shirt, par exemple. Il faut y voir des choses.
Il n'y a rien du tout, il n'y a aucune intention. En fait, c'est vraiment un instantané. Elle s'est faite vraiment sans intention. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Elle ne raconte rien. Elle ne raconte que ce que les gens veulent y mettre. Il y a eu des élucubrations complètement absurdes, notamment que c'était une pochette sexiste. Et tout ça. C'est une absurdité. C'est très con, quoi. Si on me connaît, vraiment, et si on connaît Richard, c'est tout sauf ça. Mais je pense que chacun y met ses fantasmes, y compris ses fantasmes sexuels. Il n'y a pas du tout de projection comme ça, donc à la limite, je m'en fous. Enfin, je veux dire, ça ne me concerne pas.
c'est la pluie, le soleil et les éléments. Et je te quitterai vraiment. Et je me quitterai aussi. L'air ne sera que du vent, comme l'oubli.
Si je m'en vais avant toi, très belle chanson de Françoise Hardy, interprétée par Étienne Dao sur le premier album, non le deuxième album, La Notée, qui fête ses 30 ans avec une très jolie réédition. Et alors on a un rendez-vous dans l'émission tous les lundis, qui est la réédition de la semaine. Et Étienne, je te propose de nous arrêter un peu sur ce disque,
volontiers,
pour en parler. D'abord, moi, je me demandais si le travail de réédition, d'archivage sur une discographie comme ça, est-ce que ça laisse des traces? Est-ce que le fait de revenir, de se retourner sur son passé, ça informe son écriture aujourd'hui ou la façon dont on travaille?
Non, se retourner comme ça sur le passé, c'est réactualiser quelque chose qui a toujours été là, en fait. Bon, c'est vrai que c'est assez ancien, mais j'ai un drôle de rapport au temps, en fait. C'est, en fonction des choses, soit le temps me semble avoir passé très vite, soit ça me paraît être arrivé il y a des siècles. Et effectivement, l'enregistrement, les concerts de cette période, ça me paraît être mais vraiment dans un autre monde. C'est presque, j'ai l'impression que ça n'a pas existé. Et en même temps, je réécoute les chansons quand on a fait le mastering de cet album. Et c'est toujours beaucoup de travail, ce genre de réédition, parce qu'on exhume des documents, souvent sur cassette, ou alors sur des bandes qui ne tournent plus à la bonne vitesse, qu'il faut faire cuire. Oui, il faut les faire cuire, exactement, les mettre dans un four, pour pouvoir ensuite les lire 10 secondes par 10 secondes, et puis faire des édits. Enfin, c'est un travail qui peut être colossal, mais c'est passionnant de pouvoir faire exister à nouveau des choses qui n'auraient plus jamais vu la lumière du jour si on s'y était pas penché. Et donc j'ai retrouvé des choses absolument incroyables, des maquettes dont je me souvenais pas du tout. Hein.
Alors cet album, La Notée, il date de 84. Je crois qu'on revienne sur à la fois le contexte, l'état d'esprit de l'époque, parce que voilà, le premier album, Mythomane, sort en 81.
Ouais.
C'est un succès critique.
Oui.
Mais pas vraiment public. Alors c'est quoi qu'est-ce qui se passe?
Oui, c'est voilà. Ça, on peut le dire. Je crois que j'ai dû en vendre 3 à ma famille.
Alors, qu'est-ce qui se passe après ça? C'est quoi? C'est du découragement? Non,
mais c'est-à-dire qu'en fait, en ce qui me concerne et ce qui concernait les gens qui étaient autour de moi, tous mes petits camarades de cette génération, voilà, on faisait de la musique, on n'avait pas de perspective ni de projection de ça va marcher, de je sais pas quoi. Voilà. Moi, j'avais fait un album, j'étais déjà... Enfin, tellement heureux d'avoir réussi à faire un album, c'était déjà le bout du monde. Donc après, c'était plus les inquiétudes de la maison de disques qui voyaient que j'étais un artiste qui vendait pas de disques. Et donc j'étais vraiment sur la sellette pour le second, parce que j'étais le premier album de Virgin France, en fait. Et donc les Anglais voulaient faire un peu de ménage dans le catalogue et avaient demandé à Patrick Zelnick de virer les artistes qui étaient un peu à la traîne, comme moi.
Ah, ils ont quand même eu la présence d'esprit de te donner une seconde chance sous la forme d'un single.
Oui, en fait, on a amené toute une série de maquettes qui leur plaisaient pas beaucoup. Et il y avait une chanson qui s'appelle Le Grand Sommeil, qui plaisait pas beaucoup à Franck Darsen, ni à Arnold. Enfin, bon, il a trouvé bon, un peu comme ça. Et puis en fait, c'est la chanson que Virgin a choisi de sortir en 45 tours comme une espèce de dernière chance avant La Porte. Et en fait, ça a commencé à passer en radio et il s'est passé quelque chose... vraiment qui a été miraculeux et qui a permis de faire ce deuxième album dont on parle.
Alors, tu mentionnais Arnold Turboust, Franck Darcel. Oui. Là, on est encore dans l'effervescence de ce qu'on a appelé la scène rennaise.
Oui. Est-ce
que tu peux peut-être présenter ces gens avec qui tu as travaillé sur ce disque, Franck, Arnold?
Oui, Arnold est un garçon qui arrivait de Normandie et qui avait joué avec Marquis de Sade et aussi avec un groupe qui s'appelait Private Jokes. Et Franck Darcel était le guitariste de Marquis de Sade. Et quand le groupe a splitté, il m'a proposé de travailler, qu'on travaille ensemble. Et donc on a fait le premier album ensemble et je lui ai demandé de produire le deuxième. Le premier a été produit par Jacques Nau. Enfin voilà, tout ça a été vraiment une histoire de famille, quoi. C'est comme ça que j'avais envie de fonctionner. On m'avait proposé des producteurs très chers, très à la mode et tout ça, mais je n'avais rien à foutre. C'était pas du tout. Je voyais pas l'histoire comme ça, quoi.
Là, précisément, l'histoire, est-ce que c'est celle d'amitié, justement? On a l'impression que cet album, il documente aussi une période très très précise, hein, qui est l'été 83. Alors, Darcel, dans le livret de la réédition, il raconte voilà, les allers-retours entre Rennes et Dinard, cet esprit de fête, la nuit, de travail le jour. Ça, tu le retrouves quand tu écoutes le disque?
Ça, oui, parce que cet album ne parle que de ça, en fait, de cet été, qui est comme la fin de l'adolescence, en fait. On a vraiment prolongé une espèce d'adolescence attardée pendant cet été 1983, à Dinard. C'était à Dinard, enfin, entre Dinard et Rennes, où on touchait pas terre, je crois. On buvait, on soignait nos gueules de bois, puis on travaillait vaguement.
Le Vaguement donne un album quand même de très très
oui,
bonne
tenue. Ça capture vraiment un moment de cette époque-là aussi où toutes ces chansons ont une espèce de désinvolture comme ça, de fausse légèreté, qui était un masque pour c'était un jeu, voilà.
La désinvolture va jusque dans l'absence de la touche sol dans le corg d'Arnold Turboust. Il y a une anecdote extrêmement rigolote dans le clavier où il raconte que voilà, il est obligé de jouer des mélodies sans le sol.
Il jouait pas de sol. Il y en avait pas sur son corg.
Et je renvoie à la réédition avec une photo qui est incroyable, où on vous voit tous les trois capturés comme ça, une sorte de quelque chose de très juvénile.
Ouais, mais c'est comme un espèce de secret. On habitait tous les trois ensemble. On avait trouvé, on habitait chez le cousin de Franck Darcel, qui est devenu le trompettiste assez connu, qui s'appelle Éric Lelanne. Et on avait un appartement dans le 18e, mais on n'a pas pu rester très longtemps parce qu'on n'avait pas d'argent. Et donc on est retourné habiter à Rennes. Enfin, c'était un peu la débâcle.
On va écouter un titre qui est sur la réédition de La Notée, mais qui n'est pas sur l'album originel.
Toi seul pourrais me faire changer. Toi seul pourrais me t'étais dans l'escalier et je suis venu te parler. J'étais dans la tête, j'étais dans la peau, j'étais partout. J'étais dans mes poches, j'étais dans mon cœur, je deviens fou. Toi seul pourrais me faire changer. Toi seul pourrais me faire bouger. J'étais dans la tête, j'étais dans la peau, j'étais partout.
t'es dans mes poches, t'es dans mon cœur, je deviens fou. La vie est grande et j'ai perdu ta trace. La vie est grande, que faut-il que je fasse? Oh Lucille, dois-je quadriller la ville? Oh Lucille, dois-je quadriller la ville? Oh Lucille.
C'est une maquette d'une chanson qui s'appelle Lucille.
Oui, ça m'hallucine d'entendre cette chanson à la radio.
Alors, mais moi, j'ai une question. Alors, pourquoi elle est restée à l'état de maquette, cette chanson?
Alors, en fait, l'album est dédié à Lucille, d'ailleurs. Et c'est une chanson, c'est une fille dont j'étais dingue. Et je trouvais que la chanson n'était pas à la hauteur voilà. J'avais fait cette chanson pour elle et je trouvais qu'elle n'était pas à la hauteur. Ça m'embêtait d'aller au bout de ça, quoi. Et donc, elle est finalement, elle est restée dans un placard.
Et aujourd'hui.
jusqu'à exhumé, aujourd'hui. Voilà. Et là, elle passe à la radio. Donc, c'est un truc fou.
J'aimerais qu'on dise deux mots de cette pochette incroyable qui est signée Pierre et Gilles, qui est devenue quelque chose de vraiment iconique. Comment ça s'est produit?
Oui, c'est fou parce qu'il y a plein de gens qui connaissent dans le monde entier. Il y a plein de gens qui connaissent cette image. Et qui, tout d'un coup, quand ils font le lien entre moi et cette image, tout d'un coup, ça leur fait un truc. Souvent à l'étranger.
C'est une image qui rentre dans une série de Pierre et Gilles, qui à l'époque photographiait...
Oui. En fait, je voulais faire une pochette genre Ricky Nelson. Enfin, vraiment un portrait très resserré, comme ça, avec un fond de couleur. Et puis finalement, on avait fait cet essai qui n'était pas très concluant. Et j'avais mon t-shirt marin, comme ça. Et tout d'un coup, ils m'ont mouillé les cheveux comme ça, et puis ils ont mis leur perroquet, qui était tout petit à l'époque, bibique. Et donc voilà, ils ont fait cette image, et quand je l'ai vue, évidemment, c'était évident que c'était cette image. C'était ça. Ils ont capturé quelque chose qui est vraiment tellement la personne que j'étais à ce moment-là, véritablement.
Il y a une... Alors, il y a une vraie modernité dans cette image, d'abord parce qu'elle est faite par des gens qui sont issus de l'art contemporain. Il y a une vraie modernité dans la musique, évidemment. Et en même temps, sur l'album, comme sur le maxi qui suit de quelques mois, il y a quelques reprises. Alors, Françoise Hardy, on l'a entendu, mais il y a aussi le Velvet, il y a aussi...
Sid Barrett
et Serge Gainsbourg.
Oui.
C'est étonnant, ça. C'est probablement ce qui te distingue à l'époque, ce mélange d'influences très différentes.
Oui, ça passait mal à l'époque. Il fallait vraiment être dans les clous, quoi, parce que le rock est tellement parfois conventionnel. Et donc voilà, c'était pour les gens, c'était immélangeable. Mais moi, je m'en foutais complètement. Enfin, je veux dire, j'ai toujours fonctionné avec les choses qui me plaisaient, que j'aimais. Et voilà, c'était comme ça. J'ai des influences très diverses qui ont donné ce mélange. Voilà, je pense que. C'était important pour moi d'écouter aussi des gens qui parlaient ma langue. Voilà. Comme Hardy et Gainsbourg, qui à l'époque n'étaient pas encore les figures qu'ils sont devenus, en fait.
Et dans les groupes plutôt britanniques de la New Wave, qu'est-ce que tu écoutais
Alors j'écoutais surtout les New Yorkais.
D'accord.
C'est vraiment toute la bande de New York que je trouvais complètement étincelante, quoi. De Suicide à Blondie, aux B-52s, les Talking Heads, Comatines. Il y a plein de groupes que je trouvais fantastiques. Quoi. Richard Rell.
Je vais terminer cette partie sur la notée, par évoquer un titre qui est dans deux versions sur la réédition, qui est Tombé pour la France.
Ah oui.
Alors il y a, la version maxi, puis il y a aussi la démo. Alors la démo, c'est incroyable parce que les paroles sont pas les mêmes. Et il y a
oui.
Alors sur un moment,
ça c'est normal.
Oui, mais alors c'est je trouve que le décalage est quand même assez parlant, assez saisissant. J'aimerais bien avoir ton avis dessus. Donc chacun en mémoire les paroles du refrain. Si tu reviens, n'attends pas qu'au bout d'une corde, mon corps balance. Qui est sur la version d'origine, sur la maquette. Par chance, quand tout va mal, il y a toujours un air qui balance.
Oui, parce que souvent dans les maquettes, le texte est vraiment la dernière roue du carrosse. Donc on travaille la musique et tout d'un coup, c'est genre, t'as ton texte, il est prêt ? Oui, oui, bien sûr. Et on griffonne en 3 secondes un truc pour avoir des mots, pour que ça sonne. Et toutes les maquettes qu'il y a dans le disque sont des premiers jets comme ça. Et donc, Tombé pour la France, il y a malheureusement ce texte qui est resté.
je trouve ça très joli comme rapport à la musique.
Bah oui, tant mieux.
Par chance, quand tout va mal, il y a toujours un air qui balance.
Mais en tout cas, je trouve qu'elle est assez proche finalement de la version définitive. Elle est vraiment très très proche, quoi. Si on enlève tous les délires de Fairlight et de tous les petits jouets avec lesquels on avait envie de jouer à l'époque, qui ont un peu enrichi la prod, c'est très proche, quoi.
On va écouter un troisième et dernier extrait de La Notée. Le single, le classique, Le Grand Sommeil.
Je ne peux plus me réveiller, rien à faire. Sans moi, le monde peut bien tourner à l'envers. Cette nuit dure toute la vie. En partant, tu m'as mis le cœur à l'envers. Sans toi, la vie est devenue un enfer. Entortillé dans mes draps, je crois me souvenir de toi.
C'était les pirouettes avec Oublie-moi, un extrait du EP L'importance des autres. Alors les Pirouettes, on peut rappeler qui c'est Léo Bierkrieg et Vicky Sherry.
Et Léo, c'est le batteur de Coming Soon.
Alors il se trouve que les Pirouettes, ils seront à l'affiche de la soirée Tombée pour la France qui aura lieu le 8 juillet à la salle Playel dans le cadre du festival Days Off. C'est une soirée qui emprunte son nom à une chanson évidemment des Tendo, mais aussi à une soirée qui elle-même empruntait son nom à la chanson. Bref, c'est les soirées Tombées pour la France de Magic, et imaginée par le camarade Franck Verjade. Un mot sur cette soirée du Festival des Off qui va réunir beaucoup de gens avec qui tu as un lien particulier.
Oui, déjà toute cette semaine qui s'appelle Une jeunesse moderne, c'était une façon de célébrer la pop française, mais pas seulement la musique, parce qu'il y aura aussi toute une sélection de films avec des réalisateurs français, ça va de Cocteau à Gaël Morel. Et donc cette semaine est divisée en trois soirs. Il y a un soir où je reprends Pop Satori, un autre soir où je chante plein de chansons, une espèce de mélange de plein de chansons de mon répertoire. Et puis cette soirée qui s'appelle Tombée pour la France. Et je connaissais les soirées de Franck et j'avais envie de faire un super Tombée pour la France. Et de pouvoir donner une espèce de fenêtre comme ça à plein de gens. Puis je trouve qu'il y a un moment de l'histoire de la pop en France où c'est vraiment ça crépite quoi. Il y a plein de musiciens et vraiment d'artistes tellement inventifs, tellement attachants, tout ça. J'avais envie de les avoir autour de moi. Donc il y a pas mal de gens. Donc il y a aussi une manière de faire un pont entre leurs aînés, enfin ceux qui sont toujours vivants, parce qu'il y a quelques-uns de nos petits camarades qui sont plus là, et des petits nouveaux, quoi. Et donc ça va donner des rencontres comme Patrick Vidal de Marie et les Garçons qui vont chanter avec la femme. Il y aura aussi Philippe Pascal avec lequel je vais chanter. Ce sera quand même des retrouvailles. Philippe Pascal, t'es le chanteur de Marquis de Sade. Et puis il y a Dominica aussi. Et puis toute une flopée de nouveaux artistes. Il y aura Lou Doyon, il y aura François, Andy Atlas Mountains, Yann Wagner, Calypso Valois, qui est la fille de Élie Jacquenot. Et j'en oublie, je vais Mustang, les Pirouettes.
Aline, les Scopes. John and Jen.
Oui, absolument.
Ça, cette soirée aura lieu le 8 juillet à la salle Playel. Alors moi, il se trouve que j'ai rencontré à plusieurs reprises les camarades du groupe Coming Soon ces dernières semaines qui m'ont parlé régulièrement de ce lien très fort avec toi, qui est un lien de... des échanges qui leur apportent beaucoup, amicalement évidemment, mais aussi dans l'exercice de leur activité, de leur métier.
Ah ben ça me fait très plaisir parce que moi je les aime beaucoup. On avait d'ailleurs chanté ensemble une chanson de leur premier album qui s'appelait Private Tortures. Et je trouve que, enfin j'aime bien les groupes de frangins en fait en général. Il y a quelque chose et puis ils vivent en meute comme ça. Enfin ils ont un truc très intéressant. Vraiment c'est des gens que j'aime beaucoup. Alors, faut écouter leur dernier album.
Oui, qui s'appelle Tiger Meets Lion, ouais. Dont on a entendu quelques extraits ici, qui est très très réussi. Cette série de concerts, ce sera aussi d'une certaine manière le coup d'envoi de la tournée qui s'appelle Disco Noir Tour.
Oui.
quelques indices sur ce à quoi ça va ressembler.
Ah mais j'en ai aucune idée. J'en ai absolument aucune idée. Je sais pas, enfin, c'est vraiment la complexité toujours d'essayer de sortir des clous et d'essayer de proposer quelque chose d'un peu différent, mais c'est très difficile parce que on est victime de son répertoire d'une certaine manière, de ses propres succès, des choses qu'on a envie de faire connaître qui sont un peu plus obscures, et puis surtout j'ai envie de présenter ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est ce disque, les chansons de l'innocence retrouvée. Donc je vais chanter quasiment l'intégrale.
On est victime de son propre répertoire, mais il y a régulièrement eu dans tes concerts des réorchestrations et des réarrangements assez spectaculaires des anciennes chansons.
Oui, parce qu'elles traversent le temps et les chansons, je les aime toujours, mais je ne peux pas les rejouer comme je les jouais il y a 30 ans ou 20 ans ou 10 ans. Donc elles évoluent aussi avec moi. Ce qui reste toujours, c'est la mélodie et l'émotion de la chanson. Après, les arrangements sont des fringues provisoires qu'on peut modifier. On peut déshabiller une chanson, la rhabiller différemment. Ce qui reste, c'est vraiment l'émotion. Quand elle est intacte, parce qu'on ne peut pas chanter des chansons comme ça pendant 30 ans si elles n'ont pas de résonance comme ça, émotionnelle, si elles n'ont pas cette petite chose authentique. Moi, chaque fois que je les chante, tous les soirs, vraiment, je suis de nouveau dans l'émotion dans laquelle je les ai écrites.
Et bien, pour ce qui est des nouvelles fringues, on attendra cet été et donc la tournée d'Étienne Dao. Merci infiniment d'être passé nous voir.
Mais c'était un très grand plaisir. Merci, Vincent.
Et on va se quitter avec un extrait du dernier album de François and the Atlas Mountains, « The Way to the Forest ».